Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndadi Kabala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, marche simultanée hier à Kinshasa et à Mbujimayi, des partisans de l'UDPS en soutien aux sanctions prises contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et le soutien aux efforts diplomatiques fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bruno Lemarquis salue les efforts du gouvernement provincial de l'Ituri en collaboration avec les humanitaires pour apporter des solutions durables aux déplacés. C'est au cadre de l'ONU, cite notamment le retour d'environ 900 000 déplacés dans leurs villages ces dernières années et en particulier dans les territoires d'Irumu. Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, l'accusant de soutenir l'AFC M23 qui occupe une partie dans l'est du pays. Ces sanctions étaient au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guimaté Tsongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. L'actualité de ces jours, c'est d'abord cette marche de l'UDPS organisée hier lundi à Kinshasa. Objectif, soutenir les sanctions infligées contre l'ancien président Joseph Kabila par les Américains et aussi soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, des jeunes, des responsables de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que la population se sont dirigés d'abord vers le palais du peuple et ensuite à l'ambassade des États-Unis où ils ont déposé un mémorandum. Suivez un des marcheurs, le député national Amissi Makutano. Il nous explique les déroulés de cette journée. Il est joint par Lévin Mbwingavubu.
Il nous a fallu marcher pendant 3 heures et quelques minutes pour que nous puissions atteindre le palais du peuple avec un marée humaine incommensurable, inimaginable. Nous avons marché dans les calmes, dans la sérénité, dans la discipline, au palais du peuple où le secrétaire général faisant fonction du président à l'intérim, Augustin Kabuya, a pris la parole devant la foule, demandant justement de pouvoir accompagner toutes les initiatives du président de la République parce que c'est les Congo et les Congolais qui sont des gagnants. La route a été prise justement pour aller déposer ces mémos au niveau de l'ambassade des États-Unis. Cette marche signifie le remerciement et surtout le soutien de la population congolaise à ce qui concerne le partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. C'est de un, de deux. Les Congolais ont soutenu avec faste les sanctions qui ont été infligées contre l'ancien président, M. Joseph Kabila. Et troisièmement, c'était une marche de soutien au président de la République.
Selon les médias Bosolona Politique, lors de la marche convoquée par l'UDPS à laquelle plusieurs partis de l'Union Sacrée ont pris part, le siège du PPRD de Joseph Kabila a été pris pour cible par les partisans. Ce bureau a été incendié ce lundi 4 mai. C'est presque la même ambiance qui a régné hier en Mbujimayi au Kasaï oriental. Des centaines de membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont marché dans les rues. Même objectif, soutenir les sanctions américaines contre le président honoraire Joseph Kabila. La marche est partie du rond-point de l'étoile jusqu'au gouvernorat des provinces où un mémorandum a été remis au gouverneur des provinces. Écoutons un extrait de ce mémorandum lu par Oferus Tchani, président fédéral à l'intérim de l'UDPS.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS et Tshisekedi, Fédération des mouvements, salue avec admiration l'implication du gouvernement américain dans la recherche de la paix face à la guerre d'agression dont notre pays, la RDC, est victime depuis 30 ans. Cette décision américaine envoie un message fort et clair à quiconque manquerait de la loyauté envers l'État congolais, quel que soit l'endroit où il se retrouvera, et par ricochet, demandons à l'administration américaine de soutenir le gouvernement de la RDC pour la mise en place d'un tribunal pénal international dans notre pays qui jugera sur les crimes de génocide et de pillage de nos ressources minières. L'UDPS, Tshisekedi Fédération des Mbujimayi, plaide via son gouvernement de la RDC à ce que les 33 milliards de Joseph Kabila, gelés par le Trésor américain, servent à la réparation des dommages causés aux victimes de cette guerre d'agression injustement imposée.
Sécurité cette fois, Bruno Lemarquis salue les efforts du gouvernement provincial de l'Ituri en collaboration, bien entendu, avec les humanitaires pour apporter des solutions durables aux déplacés. Les coordonnateurs humanitaires en RDC l'a déclaré lors d'un point de presse tenu hier lundi après sa rencontre avec le gouverneur des provinces. C'était juste après son arrivée sur place. Parlant de ces efforts, Bruno Lemarquis cite notamment les retours d'environ 900 000 déplacés dans leur village ces dernières années et en particulier dans les territoires d'Irumu. Il évoque aussi la sécurisation de certains axes routiers facilitant l'accès humanitaire dans plusieurs localités. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des affaires humanitaires, estime toutefois que ces efforts doivent être renforcés pour faire face aux défis humanitaires persistants. Il est au micro d'Isaac Remoyopi.
J'ai vraiment remercié toute l'excellente collaboration qui continue à y avoir entre les autorités provinciales et les partenaires, les agences des Nations Unies ici. Ils travaillent vraiment bien ensemble. Il y a des mécanismes qui fonctionnent bien. Par exemple, pour les humanitaires, il y a ce qu'on appelle le cadre provincial de concertation humanitaire qui se rencontre régulièrement. Donc quand il y a des problèmes, on s'assoit, on trouve les solutions. Donc, on a aussi remercié tous les efforts qui sont faits par la province pour faciliter cette aide humanitaire auprès des populations affectées, pour garantir l'accès humanitaire. Par exemple, il y a eu beaucoup de travail sur la route nationale 27. La situation sécuritaire, bon, elle s'est améliorée dans certaines parties de la province, mais il y a toujours un très très grand nombre de personnes déplacées dans la province. Mais, signe d'espoir, il y a aussi énormément de personnes qui ont été retournées, avec près de 900 000 personnes, notamment dans les territoires de Irumu et de Mambasa. Donc ça crée de l'espoir, ça encourage les jeunes peut-être à reprendre des activités économiques, à retravailler les champs, etc. Donc il faut que tous ceux qui peuvent le faire appuient ces efforts en Ituri pour appuyer ces solutions durables, pour que tout soit fait pour réduire cette dépendance à l'aide humanitaire, mais appuyer les gens à reprendre leur vie normale.
Nous ne quittons pas l'Ituri sur les terrains d'hostilité. Sachez que les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré dimanche la bourgade de Roulé, un des bastions des rebelles de la Convention pour la Révolution populaire, CRP. Résultat des opérations militaires lancées contre les positions de ces miliciens dans les territoires de Djougou. À propos du bilan, l'armée avance un bilan provisoire des 3 rebelles tués et plusieurs munitions et armes récupérées. En attendant, des sources locales indiquent que des détonations lourdes et légères ont été entendues ce lundi dans la zone. Détail avec Martial Kizabiamongo.
Ces opérations se déroulent dans la partie est de Boulé Centre, vers le village des Roulé et Liri dans les territoires du Djougou. Selon des sources militaires, l'objectif est de déloger ces miliciens qui tentent de se réorganiser dans cette région pour commettre des exactions contre les populations civiles dans plusieurs entités environnantes afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette région marquée par des tensions persistantes. Dans une communication ce lundi, l'armée annonce avoir récupéré la localité des Roulé située à environ 12 km des Boulé Centre. 3 miliciens ont été tués, des armes et munitions récupérées par les forces loyalistes qui poursuivent ces éléments de la CRP, indique le porte-parole de l'armée à Ituri. Les autorités militaires appellent la population locale à faire preuve de vigilance et à dénoncer la présence de tout élément de la CRP au risque d'être considéré comme complice. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Activité plutôt en panne du côté de Lubero dans le Nord Kivu. Et pour cause, le meurtre d'un motard et de son client attribué à un présumé combattant Muzalendo. Du coup, la population en colère a incendié un campement de présumés combattants Wazalendo. Conséquence, plusieurs activités tournent au ralenti depuis ce week-end, précisément dans la localité de Kimbolu et la commune rurale de Lubero Centre, située à environ 75 km de la ville de Butembo. Les explications avec Martial Papi Mukeba.
Tout est parti de la disparition d'un motard et de son client parti de Butembo à destination de Lubero Centre. Ils auraient été interceptés jeudi après-midi entre les localités de Musienene et Kimbolu par un présumé combattant Muzalendo qui les auraient forcé à se rendre dans son camp. Selon des sources locales, les corps sans vie ont été découverts dimanche, inhumés non loin de ce camp présumé. Cette découverte a suscité une vive colère au sein de la population qui a aussitôt incendié les camps des combattants Wazalendo. Conséquence, plusieurs activités sont fortement paralysées à Kimbolu et Lubero Centre. D'après des sources sécuritaires, le présumé auteur du double meurtre a a été arrêté et transféré à l'auditorat militaire de Butembo. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'administrateur du territoire de Lubero. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Deuxième jour des épreuves hors session de l'examen d'État 2026 ce mardi, avec ces précisions de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Les candidats des options techniques, notamment commerciales, pédagogiques, sociales, électricité, menuiserie, hôtellerie, restauration et autres passent les épreuves traditionnelles qui consistent à faire la pratique de leurs différentes leçons prises en classe, explique Hubert Kimbonza. Ce haut fonctionnaire du secteur de l'éducation nationale ajoute que la particularité de cette édition réside dans l'introduction de l'examen oral de l'anglais pour les candidats de toutes les sections. Il note enfin que les candidats des sections techniques devront désormais défendre leur rapport de stage devant des jurys. Hubert Kimbonza au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Dissertation et l'équipe à solo.
La dissertation s'est bien déroulée aujourd'hui. Le deuxième jour, les épreuves traditionnelles ne concerneront que les élèves qui font des sections techniques telles que commerciales, électricité, électronique et les autres sections. Le troisième jour, nous aurons les épreuves de langue, notamment l'oral de français et d'anglais, et la défense de rapports de stage pour ceux de sections pédagogiques et sociales. Et enfin, ces épreuves de hors session prendront fin dans deux semaines sur toute l'étendue du territoire national de la RDC et nos superviseurs feront un rapport de toutes ces épreuves afin d'améliorer les prochaines épreuves si possible.
Retour à présent sur la cérémonie du lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État 2026 hier lundi dans le Congo central. Elle s'est déroulée au collège Ntentemboa dans la ville de Matadi en présence du gouverneur de la province, du maire de Matadi et des différentes personnalités du secteur éducationnel du Congo central. Au total, environ 34 500 candidats sont attendus, dont environ 16 000 filles et 18 300 garçons. Ils sont répartis dans 99 centres dans toute la province. Le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Juvenal Sanga Kaubo, a encouragé les élèves à donner les meilleurs d'eux-mêmes et à faire preuve de civisme en ces moments décisifs de leur cursus scolaire. Il s'exprime au micro d'Élise Kavira.
Ces moments marquent une étape déterminante dans le parcours scolaire de nos jeunes finalistes. Ils consacrent plusieurs années d'efforts, de persévérance et de sacrifices. À travers ces épreuves, vous êtes appelés à démontrer non seulement l'étendue de vos connaissances, mais aussi votre capacité à faire preuve de discipline, de rigueur et de résilience face aux exigences de la vie. Chers élèves finalistes, abordez ces épreuves avec sérénité et confiance. Vous êtes prêts. Vous avez été préparés. Faites preuve de concentration, de discipline et de détermination. Donnez le meilleur de vous-même, sans peur ni précipitation. La réussite est à votre portée. Aujourd'hui, vous ne passez pas seulement un examen, vous franchissez une étape vers votre avenir. Je vous invite également à faire preuve de civisme et de respect strict des règles établies.
Changeons de cap avec les sports à présent et place à notre série de reportages consacrés aux élections à la FECOFA. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux électeurs. Qui sont les électeurs du comité exécutif de la FECOFA? Vanessa Kongolo.
Selon l'article 26 du nouveau statut de la FECOFA consacré aux délégués et aux votes, l'Assemblée générale est composée des 68 membres, soit 68 votants. Le club s'étale la part du Lyon avec 32 voix. Ils sont suivis des ligues provinciales avec 22 votants, les ligues nationales avec 6 voix et les associations reconnues par la FECOFA avec 8 votants. Les répartitions se présentent comme suit. Les ligues nationales disposent de 6 délégués en raison des départs ligues, à savoir la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football féminin et la Ligue nationale de football de jeunes. La Ligue provinciale compte 22 délégués en raison des départs ligues. La RDC a 11 ligues provinciales. Les clubs ont droit à 32 délégués répartis comme suit. 12 clubs évoluant en Ligue 1, 4 évoluant en Ligue 2 et 3 équipes de la Ligue nationale de football féminin et 2 de la Ligue nationale de football des jeunes. Et les 11 clubs champions des ligues provincial. Le regroupement d'intérêts reconnu par la FECOFA totalise 8 délégués répartis de la manière suivante. Un délégué de l'Association nationale des joueurs, 2 délégués de l'Association nationale des entraîneurs et éducateurs de football, 2 délégués des associations nationales des arbitres, 2 délégués de l'Association nationale des dirigeants des clubs de football masculin et féminin, 1 délégué de l'Association nationale de médecins et du personnel de la médecine du football. Il convient de rappeler que chaque délégué dispose d'une voix lors de l'Assemblée générale.
Actualité internationale.
Au Mali, le général Assimi Goïta, chef de la junte malienne, qui dirige la transition, cumule désormais ses fonctions avec celles de ministre de la Défense selon un décret du lundi 4 mai sur la télévision publique. Il remplace à la tête de ses ministères stratégiques le général Sadio Camara, tué lors de l'attaque de sa résidence à Kati, fief des militaires le 25 avril. Pour le seconder, il a également nommé un ministre délégué.
L'invité.
Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Il l'accuse de chercher à déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant l'FC-M23 qui occupe une partie dans l'est du pays. Ces sanctions étaient au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Ferdinand Kambere, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. D'abord, que vous inspire ces sanctions du département d'État américain contre l'ancien président Joseph Kabila?
Il y a eu des feuilletons, vous le savez vous tous. Nairobi a déjà allé assez, il y a eu Luanda, il y a eu Doha. Aujourd'hui, ils sont à montrer en train de négocier. Et à dernière minute, que ce soit l'affaire de l'ancien président de la République qui, lui, a usé de sa parole rien que pour suggérer qu'il y ait une solution qui soit trouvée, que les armées étrangères se retirent de notre pays et que la résolution, il y a d'ailleurs deux résolutions, la résolution du Conseil des Nations Unies 2773 soit appliquée, ainsi que la résolution 2808 qui a renforcé le mandat de la MONUSCO. C'est pendant ce temps que maintenant ce département du Trésor doit choisir pour, de manière sélective, n'aller prendre que celui-là, qui n'est même pas partie prenante à ces conflits-là, qui n'est qu'un ancien président de la République qui s'est exprimé, insécurisé dans toute la partie occupée par les gouvernements. Il a choisi d'aller habiter dans l'une de ses résidences au Nord Kivu, et que ça soit empêché, c'est vraiment inexcusable pour nous.
Oui, justement, c'est ce qu'on voudrait savoir. C'est quoi les rôles que joue Kabila à Goma? Est-ce qu'il n'influence pas d'une manière ou d'une autre la situation des guerres?
Kabila est à Goma et en tant qu'acteur politique, il a consulté sa population. C'est tout ce qu'il a fait. Mais aucune réunion, personne n'a si prouvé qu'un jour Kabila a organisé une réunion de commandement avec les M23. Et même ce qu'ils appellent appui par octroi de matériel. Quel matériel? Par quel canal? Passer par quel avion ou par quel bateau?
Merci Michel Lingepo Molanga, vous êtes avocat, vous êtes sénateur élu de la Mongala, vous êtes également cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous comprenez les sanctions américaines à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila?
C'est simple à comprendre, d'autant plus que nous sommes dans un processus de pacification de la République. Et bien évidemment, nous sommes dans un monde qui est devenu un village. Nous devons nous entraider entre nous. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République qui a tendu la main aux Américains et qui ont accepté de nous accompagner pour pacifier en fait la République. Mais en même temps, on se retrouve en face des gens qui ont quitté le pouvoir et qui tiennent à tout prix à revenir au pouvoir, quels que soient les prix. Et au niveau du Sénat, on avait pratiquement une vision, une longueur d'avance. Nous avions autorisé la justice à faire son travail et la justice a bien fait son travail. Parce qu'à son temps, on avait condamné la justice d'être manipulée, mais parce que, partant des principes de l'universalisation, en fait, de poursuite ou de condamnation des actes qui sont, en fait, de nature à troubler l'ordre sur le plan international, les Américains ont repris également sur le plan administratif des enquêtes qui ont abouti, effectivement, à déceler que ce que nous disions à son temps ici et ce que la justice avait fait comme travail en condamnant M. Joseph Kabila, la justice n'avait pas tort. et que actuellement il y avait des éléments entre les mains des Américains qui sont d'ailleurs bien informés que nous et qui l'ont pratiquement poussé en fait à pouvoir décourager cet acte-là en prenant cette sanction qui dirait être justifiée pour l'intérêt de la paix et de la stabilisation de la région des Grands Lacs.
Merci Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. C'est quoi votre lecture par rapport aux sanctions américaines infligées à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila?
Personnellement, je pense que l'interprétation de la démarche en soi est en quelque sorte biaisée de part et d'autre. L'Office américain du Trésor, qui vient d'imposer des sanctions sur l'ancien président Joseph Kabila, venait déjà, en début du mois passé, d'en imposer sur l'armée rwandaise. Et je pense que nous avons encore tenu une émission durant laquelle je vous ai dit que mon interprétation, ma compréhension à moi, c'est que ces outils diplomatiques ne devraient pas constituer une finalité en soi.
Mais est-ce que vous comprenez l'opportunité de ces sanctions?
Je comprends l'opportunité, mais je trouve que la façon et l'interprétation ou l'importance que l'on accorde à ces sanctions, surtout du côté gouvernemental, n'avons pas la peine. En rester au niveau des sanctions reste peu au regard de tout ce que peuvent faire les Américains s'il faut vraiment directement intervenir pour cesser et arrêter cette rébellion.
Vous pouvez encore continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à ce journal préparé pour vous par Lévin Mbouinga Vubu et mis en ordre par Alain Mongou.